Pensez le 9-3, un podcast de Profession Banlieue et Making Waves.
Antoine Tricot, j'habite à Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, et je suis journaliste, auteur et aussi documentariste radio.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le podcast Pensez le 9-3 ?
Alors, Pensez le 9-3, c'est un podcast dont la première saison est sortie en janvier 2023, qui, comme son nom l'indique, est tourné en Seine-Saint-Denis, donc dans le département que j'aime à dire le plus connu de France, probablement, mais aussi le plus caricaturé. Et l'idée, c'est dans chaque épisode d'emmener les auditeurs, auditrices en promenade dans un quartier de la Seine-Saint-Denis, en compagnie d'un chercheur ou d'une chercheuse et d'une personne qui est experte du territoire pour différentes raisons, soit parce qu'elle y habite, soit parce qu'elle y milite, soit parce qu'elle y travaille. Et ensemble, créer une conversation autour des thématiques des quartiers populaires. Donc ça parle bien sûr de la Seine-Saint-Denis, mais ça parle à tous les habitants de quartiers populaires ou toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions en France. Une discussion à partir d'une thématique de recherche, que ce soit la santé, que ce soit la rénovation urbaine, les questions des mémoires d'immigration, de la ségrégation raciale, de l'éducation. Voilà, il y a 12 épisodes aujourd'hui en ligne et je vous invite à l'écouter.
Ça change quelque chose dans ta perception de l'espace. T'es, tu rentres dans un jardin et c'est, je sais pas, il y a... Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a maintenant que le jardin est... Donc ça fait 7 ans, c'est la 7e saison, donc il commence à y avoir des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain. Enfin voilà, il y a des choses qui sont... Des arbres qui commencent à grandir, des beaux arbustes, etc.
Mais le fait qu'il y ait du bruit dans ce jardin, c'est pas du tout anodin en fait, parce qu'aujourd'hui, les espaces qui sont pas encore artificialisés, et que les acteurs de la ville laissent au jardinage, c'est ce qu'on peut appeler les ruines du capitalisme urbain, c'est-à-dire les espaces qui sont dévalués et du coup auxquels on laisse voilà, certains collectifs, certaines associations les utiliser. Mais donc c'est souvent des espaces bruyants qui peuvent être pollués, où les sols ne sont pas forcément des sols cultivables. Et donc ça, ce n'est pas anodin, ça montre que dans la ville, il y a une hiérarchie des usages et que l'agriculture urbaine, ça reste souvent un usage subsidiaire qui est considéré un peu comme le parent pauvre de l'urbanisation.
Dans quel cadre est produit le podcast ?
Alors, en fait, c'est une commande de Profession Banlieue, qui est un centre de ressources sur tout ce qui est politique de la ville, c'est-à-dire les politiques spécifiques sur les quartiers populaires, dans la Seine-Saint-Denis. En fait, eux, c'est une association qui a pour but de diffuser tout ce qui est savoir autour de ces politiques particulières aux gens qui sont élus ou fonctionnaires ou militants associatifs en Seine-Saint-Denis. Et à un moment donné, ils travaillaient beaucoup sur le texte, sur des brochures en ligne, etc. Et ils se sont dit, pour toucher plus de gens, on peut peut-être penser à un projet audio. Donc, ils ont fait une commande à Making Waves, qui est un studio de podcast qui est aussi en Seine-Saint-Denis, qui est venu me chercher pour penser ensemble un projet de podcast autour de la recherche donc académique des universités sur la Seine-Saint-Denis. Et l'idée a été donc de créer ces conversations, ces promenades conversations pour essayer de créer un contenu accessible à tous sur ces questions des quartiers populaires.
Dans vos podcasts, durant les discussions avec les chercheurs, les chercheuses et les habitants, on entend tout l'environnement autour des personnes, les travaux, les oiseaux, les passants. En quoi c'est quelque chose qui vous semblait important d'incorporer dans le podcast ?
En fait, c'est super important. Je dirais même que le paysage de la Seine-Saint-Denis est la base de chaque épisode. L'idée, c'est de 1. Emmener les gens dans les quartiers populaires en disant « Regardez, en fait, c'est pas ce que vous croyez. Il y a des oiseaux, il y a beaucoup de sons tranquilles, il y a des jardins potagers où on entend des gens faire du jardinage. Alors certes, il y a des voitures, etc., puisqu'on est en ville, il y a des avions qui passent, mais il y a aussi énormément de choses auxquelles on s'attend pas. Et le fait de se promener dans ces quartiers populaires, ça change déjà, ne serait-ce que par l'oreille, les stéréotypes qu'on a sur ces endroits qu'on imagine dans des états pas possibles, avec des gens qui crient tout le temps ou je ne sais pas quoi, en tout cas des images qu'on a à la télévision, puisque les quartiers populaires sont traités la plupart du temps par les médias seulement quand il se passe des choses graves. Et du coup, on a cette image des quartiers populaires en feu, ce qui n'est pas le cas au quotidien, même très rarement, et pas plus que d'autres endroits potentiellement, mais c'est des endroits plutôt agréables en plus. Il y a souvent beaucoup d'espaces verts en bas des grands ensembles et dans lesquels on peut se promener tout à fait tranquillement.
Justement, comme vous dites, le 9-3, c'est un département sur qui on porte beaucoup de préjugés. Comment on déconstruit justement ces préjugés ?
D'abord par cette promenade, comme je le dis souvent, effectivement, le fait de marcher dans ce que beaucoup ont appelé des no-go zones en anglais, dans des endroits où on ne pourrait pas marcher, ça déconstruit un premier stéréotype qui est que les quartiers populaires, c'est des endroits dangereux. Alors certes, il y a des choses dangereuses qui se passent dans les quartiers populaires, mais ce n'est pas le cas de tous les quartiers populaires et ce n'est surtout pas le cas de la majeure partie du temps dans les quartiers populaires. Il y a plein de gens qui vivent au quotidien à qui il n'arrive rien. Et après, pour moi, l'important pour déconstruire les représentations qu'on a des quartiers populaires, c'est de construire du savoir commun sur ces quartiers populaires. C'est des endroits de vie dans lesquels les gens ont des problèmes qui sont liés à des choses très banales.
Parce qu'on est tellement en lien, quand on a vu que l'obésité posait un problème, nous avions demandé à l'époque à la mairie est-ce qu'ils pouvaient nous aider pour mettre à disposition deux nutritionnistes, deux diététiciennes. Sont venus, nous avions fait 5 ateliers.
D'accord.
Mais ça a été vraiment bénéfique.
Bah oui, parce
très bénéfique parce qu'on a fait les ateliers santé et de ces ateliers santé, nous avions appris à boire.
Ouais.
Est-ce qu'il faut toujours acheter de l'eau? De là, on est passé par tout ce qui est consommation, que ce soit sucre ou autre. Et pour le dernier atelier, nous avons fait venir un psychologue pour parler des addictions. Un médecin est venu aussi, plus une infirmière. Donc c'était vraiment des moments très intenses et après ça, on a pu orienter certaines mamans vers des ateliers de prévention pour la diabète.
Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que l'association, elle travaille vraiment par le bas, j'allais dire, à faire comprendre ces problématiques, là où les campagnes par le haut. Enfin, je veux dire, on entend à la radio 5 fruits et légumes par jour, on n'entend pas. Comment pouvez-vous vous payer 5 fruits et légumes par jour?
Exactement.
Et donc vous posez cette question-là.
Bien sûr.
Et cette question-là, elle est essentielle.
On la pose, on en parle. Surtout aujourd'hui avec l'inflation. Elles n'arrêtent pas de le dire. Elles disent que là, on ne peut même plus acheter des légumes tellement tout est cher.
Ah ben voilà l'hôpital.
Donc c'est à deux pas.
Il est beau, hein?
Ah ouais.
Les thématiques abordées dans chaque épisode sont des questionnements larges aussi dans leur temporalité puisqu'elles sont là depuis longtemps et sûrement encore pendant quelques années. Pourquoi ce choix d'aborder des sujets qui ne se fichent pas dans le temps?
Alors c'est l'idée de créer vraiment une ressource documentaire qui va pouvoir être utilisée dans le temps. En fait, vu que on est un peu dans une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens, soit qui habitent les quartiers populaires, soit qui travaillent, soit qui sont élus de ces quartiers, donc qui font la politique autour de ces quartiers, ou des gens qui n'y connaissent rien, apprennent des choses. Pour moi, c'était très important qu'ils puissent les écouter dans un an, deux ans, trois ans, voire 10 ans, en se disant « Ah oui, ça me fait comprendre des choses sur les quartiers populaires ». En plus, pour moi, on est en train de documenter une époque qui est très peu documentée, c'est-à-dire, voilà, la Seine-Saint-Denis du début des années 2020, c'est celle-là. Et peut-être, dans 50 ans, la radio se reprendra ce qui s'est dit dans ces conversations en disant, ben voilà, ça donne un document historique qui est assez rare sur cet état de fait. Et pour moi, la troisième chose, c'est se dire, les quartiers populaires sont souvent traités dans une actualité. On y va en tant que journaliste une demi-journée pour parler d'un événement très précis sur lequel, en plus, on a souvent une idée préconçue. Et du coup, on reste dans quelque chose qui donne l'impression que les problèmes qui s'y jouent, que ce soit des problèmes de violence ou de drogue ou de racisme, etc., ou de violence policière, sont englobé dans un présent. On ne sait pas d'où ça vient. Ça tombe du plafond, ça tombe du ciel. Voilà. Alors que c'est des choses qui ont été construites politiquement depuis des années. Et du coup, il faut en raconter l'histoire pour remettre ces quartiers populaires dans une histoire longue. Et pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de relier l'histoire de ces quartiers populaires d'aujourd'hui à une histoire ouvrière qui date depuis très longtemps et qu'on a quasiment tous oublié en se disant que ben, non, ces quartiers populaires, en fait, ils viennent de nulle part. Quoi.
Justement, vous parlez de projet documentaire, mais pour vous, où se trouve un peu la limite entre une production documentaire et une production journalistique?
Pour moi, le documentaire est journalistique. En fait, le journalisme est très, très varié. Il y a plein de formes différentes au journalisme. Que ça peut être une brève dans un journal, ça peut être un reportage dans un journal télé, ça peut être une émission longue de débat sur un sujet d'actualité, et ça peut être un livre de littérature de non-fiction ou un documentaire long à la radio. Ce qui est important, c'est de prendre en compte cette diversité d'approches, et c'est surtout les formats longs que permettent le documentaire, qui sont souvent souvent voilà, des formats peut-être de 1 heure à la radio, ou même 30 minutes à la radio, ou 1 heure et demie au cinéma, ou bien des livres de 350 pages, permettent de traiter en profondeur des sujets qui sont trop souvent traités de manière trop rapide quand on a des petits formats. Et pour moi, le travail qui est fait dans le documentaire, qui est de documenter le réel, permet aussi de travailler pour un journalisme qui est moins figé dans le temps présent et qui prend en compte les structures longues de l'histoire qui sont importantes à raconter.